Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein à votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait. Oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de la littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un ou quand il n'y en a pas un.
Et bonjour et bienvenue pour votre émission littéraire, un livre sur le zinc en partenariat avec la médiathèque départementale de la Lozère. Pour ce mois de février, quoi de mieux que de parler de grand froid, très chère idée de notre délicieuse Claire. Bonjour Claire.
Merci, bonjour.
Sera-t-il question de stade climatisé dans le désert qatarien dans cette émission? Non, pas encore, mais Claire a compris qu'avec le réchauffement climatique, le grand froid n'existe plus. Elle a donc décidé de nous emmener en Australie, au Congo. Pourquoi me direz-vous? Pourquoi en Australie ou au Congo alors que le thème qu'elle a choisi est le grand froid? Eh bien, je ne vous répondrai pas car je n'en sais rien. Peut-être que cela est lié à ce thème de grand froid qui n'est pas toujours compréhensible. J'en veux pour preuve ce proverbe provençal que je n'ai toujours pas compris et qui dit « froid comme cul de chat ». C'est peut-être que je n'ai jamais touché un cul de chat. Bonjour Valérie.
Eh bien, tu devrais. Salut tout le monde.
Bien sûr, je n'ai absolument pas fait exprès de te saluer après avoir parlé de cul de chat. Le grand froid, l'hiver, inséparable compagnon des auteurs russes. Valérie, justement, tu nous emmèneras en Tchoukotka, district fédéral au nord-est de la Russie. Pauline nous parlera d'ours et de rossignol, roman tiré au plus froid de l'hiver, histoire inspirée de contes russes. Bonjour Pauline.
Bonjour tout le monde.
Et comme dirait Pierre Dac, ce n'est pas parce qu'en hiver on dit fermer la porte, il fait froid dehors, qu'il fait moins froid dehors quand la porte est fermée. Enfin, je finirai cette introduction par cette citation de Ralph McCauley dans le film Pearl Harbor. Le seul moment où je n'ai pas froid, c'est quand je pense à toi.
Oh, c'est trop beau!
Ouais, merci. Claire, chère Claire.
Mais bravo, mais quelle introduction, parce qu'effectivement, ma sélection posait un petit souci, mais quelle pirouette!
Oui, le grand froid. Claire, le grand froid. La mer noire dans les grands lacs, d'Annie Lulu.
Il fait froid en Roumanie quand même.
C'est vrai, mais
en hiver.
Il faut rappeler qu'Annie Lulu est quand même née, est une auteure congolaise et roumaine qui écrit en français. Donc elle nous présente ce premier roman qui n'est pas une autobiographie, mais la rencontre entre deux géographies qui sont celles de l'auteur, la Roumanie et le Congo. Elle a reçu avec ce livre le prix Senghor 2021, le prix de la littérature de l'exil 2021. Elle a été finaliste du Grand Prix Roman Métis 2021, un roman qui se situe juste après la chute de Ceausescu dont tu vas nous parler. Et dans une interview, elle nous dit « Cet être qui n'arrive pas à se situer, donc de ce roman, qui ne trouve de place nulle part, va tenter de se dire que ce nulle part lui appartient, qu'elle va le dominer. Cela passe chez elle par les études, la lecture, et cela lui confère une image d'elle-même qui lui permet d'avancer. Mais elle a cette lucidité de se dire que quelque part elle est aussi analphabète. Il y a une rencontre contradictoire entre le désir de sa mère de la pousser vers son cerveau, loin de son corps, et le besoin très sensuel, épidermique, de se connaître et de se reconnaître dans l'autre.
Oui.
Très beau.
Magnifique.
Son explication. Ouais. J'imagine que le livre l'est tout autant.
Oui, vraiment une très belle découverte que cette auteure-là, Annie Lulu. Donc je crois que c'est son premier roman. Et effectivement, il est question de... C'est une quête identitaire, en fait. C'est une femme qui naît en Roumanie. Et tout au long de sa première vie, quoi, jusqu'à ses 20-25 ans, elle ne connaît pas son père. Et elle ne connaît rien de son père, si ce n'est qu'il s'appelle Exaucé Motembe Makassi et qu'il est congolais. Et donc voilà. Alors moi, quand j'ai eu le roman entre les mains, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Congolais en Roumanie. Enfin, la Roumanie n'a pas eu de colonie. Enfin voilà, comment est-ce qu'on en arrive à ce métissage-là? Et donc il se trouve que la Roumanie, qui faisait partie du bloc de l'Est, était certes très très fermée, mais invitait quand même beaucoup d'étudiants africains à venir étudier chez eux pour voilà, leur montrer la vitrine que pouvait être le régime communiste de l'époque, et puis surtout les endoctriner quelque part un peu politiquement pour qu'une fois rentrés chez eux, ils fassent la révolution rouge. Voilà, bon, ça a rien donné de spécial en tout cas au Congo.
Échec.
Mais ça a donné naissance donc à cette, le personnage, mais effectivement, c'est en partie autobiographique ce livre, puisque elle-même a un père congolais et une mère roumaine. Et tout le livre, en fait, c'est une quête identitaire. Elle cherche ses racines, qui elle est, puisqu'elle explique qu'être enfant métisse en Roumanie, dans un pays très fermé, voilà, qui lui-même est composé d'ethnies différentes, mais qui a été complètement gommé avec le communisme, où on est tous roumains et on est tous socialistes. Et voilà, bon, bah, elle a subi des brimades, elle a subi voilà, le racisme, elle se l'est pris de plein fouet. Et puis avec cette question lancinante et perpétuelle de qui est mon père et pourquoi ma mère ne répond pas à mes questions. Et alors une fois à 6 ans, elle ose poser la question. Et sa mère qui a toujours été... donc c'est une mère très froide, très distante, très autoritaire, qui a des vues sur elle, pour son avenir, et qui projette tout sur elle et qui n'écoute absolument pas sa fille, pour autant n'est pas violente. Et quand l'enfant pose la question, elle lui fracasse à moitié le crâne sur un mur en lui disant j'aurais dû te... Et lui, en plus, elle lui redit ça, j'aurais dû te casser... c'est une phrase horrible, ta tête avec une brique quand t'étais un bébé. Enfin, voilà, c'est un truc charmant. Horrible. Et en fait, la mère fait en sorte que l'enfant ne repose plus jamais la question, hein, que ça reste un traumatisme toute sa vie. Et effectivement, elle n'osera plus jamais reposer la question.
Ah ben c'est sûr, hein, mur de briques.
Voilà. Donc ouais, c'est un passage enfin, tout le livre d'ailleurs, tout le livre est très très poignant, puisque c'est aussi une histoire de souffrance, puisqu'elle va chercher le moindre détail, la moindre information. Dès qu'on dit Congo, même si c'est pour parler, je sais pas moi, d'une recette de cuisine, ah ça y est, elle va avoir l'impression d'avoir des bribes d'informations sur son père. En fait, elle va complètement fantasmer l'idée de son père. Et donc elle grandit, elle part à Paris faire une thèse en littérature. Et elle habite le quartier, vous savez, Château Rouge, Château d'Eau, tous ces coins-là, là où donc un quartier où il y a énormément d'immigration, et en partie des Congolais, beaucoup d'Africains et tout ça. Donc là, elle est adulte, donc elle est quand même en capacité de se dire, de peut-être un peu moins fantasmer, puis de commencer une vraie recherche en fait sur son père, ce qu'elle fait. Et elle a, bon, bref, faut lire le roman. Et c'est une des choses qui est très, très intéressante dans ce roman, c'est l'écriture. C'est vraiment une écriture très poétique, très originale. Elle s'autorise des inventions de mots, des inventions de syntaxe. C'est très nouveau, c'est frais, ça se lit, ça se comprend. Et j'avais prévu de vous lire l'incipit, parce que déjà, dès qu'on rentre dans le roman... On sent tout de suite qu'on est dans un autre univers, quoi. Que vraiment, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'inventé dans sa langue. Mais bien sûr, j'ai oublié les livres à chaque fois.
Ne peux rien dire, ça m'arrive à chaque fois. Ce qui est intéressant en plus dans ce roman, il me semble, tu me diras si je me trompe, c'est que cette jeune fille, en fait, est enceinte et elle raconte à son bébé l'histoire de sa vie tout le long du livre. C'est ça. Donc c'est un peu atypique, quoi. C'est comme histoire. C'est-à-dire, je suis enceinte, je raconte à mon bébé l'histoire de ma vie, et tout le livre, c'est l'histoire. Et ça se finit, elle n'a pas couché, je crois, ou elle accouche.
La dernière ligne, elle accouche. Elle accouche, et encore une fois, il y a une surprise là aussi. Voilà. Je ne vous le dis pas, mais non, c'est très intéressant pour les gens qui ont envie de nouveautés littéraires, je dirais. Bah, lisez ça, vraiment, c'est frais, rafraîchissant, c'est intéressant.
Un premier roman.
Oui.
Excellent. Merci Annie Lulu, donc pour beau nom aussi Annie Lulu, j'aime beaucoup. Annie Lulu dans la mer Noire dans les Grands Lacs. Valérie, Alain Mascaro, avant que le monde ne se ferme. Alain Mascaro. Oui, on prendra l'autre après. Et oui, je savais que tu voulais que je te parle de...
Non, surtout que je ne l'ai pas fini. C'est
de Vedette en premier. Alors, Alain Mascaro est professeur de lettres. Il a tout plaqué pour voyager avec sa compagne. Il a obtenu le prix Pégase de la Nouvelle 90 et 92 et le prix Club Internet Publibook La Sourate de la Répudiation en 2001. L'auteur a reçu pour son premier roman, Avant que le monde ne se ferme, le prix Première Plume et Talon Cultura 2021. à la fois épopée et récit intime, Avant que le monde ne se ferme est un premier roman à l'écriture ample et poétique. Alain Mascaro s'empare du folklore et de la sagesse tzigane comme pour mieux mettre à nu la barbarie du monde. Est-ce cela ?
C'est exactement ça. Alors, au départ, je me suis dit, grand froid. Bon, il fait froid, mais il ne faut pas exagérer. Mais en fait, c'est le froid dans le cœur des hommes.
Ah bien, pas mal aussi, ça.
Tu as commencé à avoir des doutes sur le thème aussi. Je t'ai dit, on s'est fait un peu avoir.
Il y a certains livres qui étaient grand froid dans la sélection. Puis il y en avait deux ou trois. Je me suis dit, tiens, elle a dû se tromper. Ça devait être une liste pour un prochain.
Vous avez mal lu ou alors je me suis mal exprimée. Il y avait une sélection grand froid et une sélection traduction.
Voilà. Mais moi, je me suis dit que c'était que des traductions de livres de grand froid. Donc, bon, bref. Pour en revenir à Avant que le monde se referme, dans le titre, tout est annoncé, en fait. C'est Alain Mascaro raconte l'histoire d'Anton qui vit dans une compagnia. C'est un groupe de tziganes qui sont circassiens, et ils racontent leur quotidien qui est à la fois très lent et très rythmé parce qu'ils se promènent en calèche. Et il y a un personnage qui est assez central dès le début du livre qui s'appelle Jagues. Jagues, c'est un musicien, on ne sait pas trop d'où on vient. Apparemment, il viendrait de l'Inde, mais on ne sait pas trop. Enfin, mais eux, ils accueillent, en fait. C'est un peuple tzigane qui est très, 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 très accueillant. Ils se méfient que des gadjés et des gadjis qui sont les habitants sédentaires. Mais après, ils accueillent à tour de bras. Et ce Jag, il sait lire et il lit beaucoup de livres d'histoire. Et il commence à dire « on devrait partir avant que le monde ne se referme » parce qu'il sent l'antisémitisme arriver, il sent la violence des gens, il sent que justement le monde est en train de se refermer sur lui-même et que eux, en tant que nomades, ils vont plus trouver... Ils vont plus trouver leur place, mais bon, ce sont des artistes, ce sont des circassiens qui vivent et qui se nourrissent du regard et des applaudissements des gens qui viennent les voir. Ils sont tziganes, mais ils font tout pour ne pas correspondre à ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire ils sont pas voleurs, ils sont pas ils disent la bonne aventure, mais ils mentent pas. voilà, il y a tout ça et un jour ce Jacques part. Cet homme part en disant je pars parce que là le monde est en train de se refermer et effectivement arrivent les premières milices, les premières arrestations et le monde se referme. Voilà, alors j'ai pas fini le livre donc je c'est même pas par risque de spoiler que je m'arrête là. Mais malgré tout, même si je l'ai pas fini, je le recommande beaucoup parce que c'est écrit avec beaucoup de beauté. J'étais étonnée que ce soit un premier roman parce que c'est très bien travaillé. Chaque mot, chaque phrase est bien écrit. Enfin, c'est assez incroyable. Hein. Vraiment, pour un premier roman, c'est scotchant. Le thème de vivre à l'intérieur de ce camp, de cette compagnie, à l'intérieur de ce camp tzigane, donne aussi une autre vision de ce qu'on peut penser justement de ces peuples nomades et le froid, pour en revenir au thème du grand froid, c'est le froid justement, le comment lui il décrit comment à un moment donné il va sauver un de ses animaux, puis il va vouloir se faire lui-même enfermer dans un ghetto pour retrouver les gens de sa compagnie alors qu'il y a le typhus, c'est dangereux d'aller se faire enfermer dans un ghetto quand on est libre. Ça permet aussi de le vivre de l'intérieur et c'est sur la Deuxième Guerre mondiale, du coup, cette période-là. Et on n'a pas l'habitude de lire des livres de ce prisme-là. On a beaucoup justement sur les peuples juifs, mais sur le côté de tzigane, c'était vraiment un beau parti pris. C'est très. Je mets du temps à le lire, j'ai mis du temps à le commencer et c'est assez glacial, mais glacial dans les faits et gestes des hommes en fait, hein, où on se dit mais là ça ne peut plus, il faut que ça s'arrête. Après on le sait puisque il raconte une passage d'histoire qui est réelle, donc on sait ce qui va se passer et c'est encore plus horrible parce qu'on sait que c'est le début de la fin et le monde s'est vraiment refermé et la question c'est est-ce qu'il se rouvrira à un moment donné.
Mais ouais. Ça donne envie.
Ouais, c'est pas gay, mais c'est beau. C'est plein de poésie, plein de. Vraiment, l'écriture est très belle. C'est pas un livre qui est très long, et je vous le recommande vraiment.
Quelle est donc cette maison d'édition ?
C'est Autrement. En fait, mes deux livres,
je ne connais pas.
Autrement.
Autrement.
Voilà.
Tu connaissais ?
Non. J'avais déjà vu, mais j'étais.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Encore un premier roman, ça aurait pu être le thème des premiers romans, hein, à moins que ça ne soit pas le cas pour Pauline.
Je crois que si.
Mais si, car c'est le premier roman de Catherine Arden, L'ours et le rossignol, donc une trilogie de fantasy science-fiction, tu nous diras si c'est l'un ou l'autre ou les deux, qui s'intitule « Trilogie d'une nuit d'hiver ». Donc « L'ours et le rossignol », c'est le premier tome, suivent « La fille dans la tour » et enfin « L'hiver de la sorcière ». Donc Catherine Arden est née en 1987 à Austin, dans le Texas, où tout le monde le sait, clair, il fait très froid. C'est donc une romancière américaine. En 2011, Catherine Arden obtient ses deux diplômes en langue russe et française à la suite des cursus suivis au Middleborough College. Après avoir passé une année à Moscou, elle retourne dans le Vermont, où elle vit actuellement.
Ah, le Vermont, voilà.
La température baisse,
tout se met en place.
C'est ça. À la suite de cette expérience, elle écrit cette trilogie.
Eh bien, là aussi, premier roman, et c'est très étonnant parce que c'est absolument merveilleux. Effectivement, c'est chez Folio SF. C'est pas de la SF. Je dirais pas non plus que c'est de la fantasy. On n'est pas dans un univers médiéval. On est vraiment dans le conte. C'est inspiré de contes russes et on y est totalement. C'est vraiment du conte. Ça mériterait une collection à part, parce que là, il va se perdre dans la science-fiction, dans la fantasy, il va rater son public, moi, je pense, parce que c'est vraiment un conte, et c'est le conte du gel, c'est le conte du froid, c'est le conte de Morosko, le roi de l'hiver, et c'est le conte de Vassilissa. Alors, c'est pas Vassilissa la très belle que... Le conte qu'on connaît, qu'on connaît...
Ou pas
qu'un conte russe, il me semble, voilà, sur une jeune fille très belle. Non, là, notre Vassilissa n'est pas très belle, mais notre Vassilissa a un destin bien particulier. Lorsque Marina, sa mère, va lui donner naissance, elle a déjà eu plusieurs enfants, elle vit dans, voilà, lui et son mari sont comblés, elle attend cette petite et elle décide de l'avoir. Et elle sent très bien à ce moment-là que ce sera sa dernière fille et que ce sera peut-être, ça marquera un terme à sa vie. On le sent dès le début. Mais elle souhaite la voir parce qu'elle sait qu'elle sera différente, comme sa mère à elle, sa mère à Marina, était différente. Donc voilà, il y a un petit mystère qui règne autour de la naissance de Vassia. Et puis bon, Vassia naît, sa mère s'éteint. C'est un moment très doux, très beau. Et Vassilissa va grandir dans un univers, et là on est dans le froid glacial, c'est-à-dire que le printemps, il s'annonce pas par les fleurs qui éclosent, il s'annonce par la fin du gel et la tombée de la neige, c'est ça qui annonce le printemps. Pour isoler la maison, on met des blocs de glace autour de la maison, toute la vie dans la maison tourne autour du poêle, et alors je n'arrive même pas à concevoir ce poêle sur lequel on dort, autour duquel on est, c'est vraiment l'élément central de la maison, c'est voilà.
Comme une yourte un peu, peut-être.
Oui, mais on se couche sur le poêle même. Donc c'est un poêle, j'imagine, un poêle monumental. Donc vraiment tout, voilà. On est dans un univers extrêmement froid et tout va tourner autour de ça. Donc en plus, un univers où Vassia, ses frères et sœurs, tout est bercé, toute leur enfance est bercée par justement ces contes du gel, ces contes, cet univers un peu féerique, et par des traditions, c'est-à-dire qu'on offre on fait des offrandes aux êtres de la forêt, aux protecteurs de la maison, pour qu'ils nous protègent tout le temps. Et donc Vassilissa grandit dans tout ça. Et elle a ce petit côté un peu à part, de petite fille un peu libre, qui connaît les bois, qui connaît la nature, qui connaît les chevaux. Et en plus, elle-même échange, discute, vit avec ces êtres de la nature sans se rendre vraiment compte qu'elle est la seule à discuter avec ce petit Domotvoy qui est dans le poêle et qui protège la maison.
Est-ce que je prononce trop bien?
Mais voilà, elle s'en rend compte, en fait, quand un événement va, sans que ce soit annoncé, complètement bouleverser sa vie. Il y a deux personnes qui vont arriver dans la maison, une nouvelle maman et un prêtre. Qui n'a pas du tout envie d'être là, mais qui a été envoyé un peu en punition dans ce petit village au fin fond de la Russie pour remplacer le prêtre qui était là actuellement et qui laissait tout le monde vivre avec sa tradition en parallèle de la religion. Et lui, dans sa colère et dans sa conviction pour sa religion, mais aussi sa colère, on sent vraiment sa colère, va se laisser manipuler par un de ces êtres de la nature, on va dire quelqu'un de très méchant, tout ce qui est mauvais dans le monde va manipuler ce prêtre pour qu'il fasse disparaître, justement, pour qu'il impose sa religion au point de faire disparaître toutes les traditions et tout ce qui protège la vie dans ce village. Et donc ça a évidemment bouleversé la vie de tout le monde qui va penser... les gens du village ne vont pas forcément se rendre compte que c'est l'arrivée du prêtre qui bouleverse tout ça, mais Vasya, qui elle échange avec ces êtres de la nature, va s'en rendre compte et va essayer de lutter contre ça. Évidemment, ce sera elle la sorcière, évidemment. Voilà, donc l'histoire, elle est très longue. Hein. Entre le début et la fin du roman, et c'est pour ça que je suis très étonnée que ce soit une trilogie, tu me l'apprends, on la voit de sa naissance assez, on va dire, je pense qu'elle doit avoir entre 15 et 20 ans. Donc c'est déjà une très grande partie de sa vie. Et puis alors, il se passe des tas de choses. Il y a des grands voyages, il y a des rencontres avec... Et ce mélange entre ce monde un peu féerique, ce monde religieux... Ces histoires de famille, c'est très beau. C'est très, très beau et c'est très riche. Et j'ai du mal à le faire ressentir tellement il y a de choses, tellement c'est un livre complet et riche, sans que ce soit jamais lourd, sans que ce soit jamais casse-pied. On a froid avec eux, on court dans les bois avec Vasya, on monte à cheval avec elle. Vraiment, c'est très, très beau. J'ai adoré, c'est bien écrit. C'est un vrai conte d'hiver et... Enfin, quand vous lisez, vous avez envie d'aller vous promener dans les bois sous la neige. Vous avez vraiment envie de ça et de trouver un petit être de l'eau ou un petit être des bois ou même de vous retrouver face au roi de l'hiver et de lui faire face, ce beau roi de l'hiver incroyable.
Excellent. C'est pour quel âge ?
Alors, au lycée, peut-être, on peut attaquer parce que c'est dense.
D'accord.
Voilà, l'histoire en elle-même... Conter cette histoire, même à des jeunes, ça se fait. Par contre, le lire, là, c'est autre chose. C'est très dense. Ouais. Et donc, très beau. Très, très beau et un vrai conte du froid. Là, on est dans le thème. On y a
super envie. Ouf, il y en a un.
Chez Folio, il faudrait que tu lises les deux autres pour nous dire, au final,
oui. Ça vaut. Qu'est-ce qui va se passer là, j'en suis bien curieuse.
Moi, j'achèterai la suite.
Ouais. Oui.
Je ne sais pas, je t'avais dit quoi. Je sais que ça parle de sorcière, le troisième. Et le deuxième, j'avais dit quel titre.
C'est la tour, le deuxième. Tu as parlé d'une histoire de tour.
Ah oui, j'ai parlé d'une histoire de tour.
Je ne connais pas la tour encore.
Fille dans la tour.
La fille dans la tour.
Mmh. Mais ça a dû sortir, non ? Parce que ça, c'est récent, c'est 2021.
Je n'ai pas regardé la date, mais c'est déjà en poche.
Enfin, quoi que c'est du poche, oui, peut-être un peu, oui. Un peu plus vieux que ça, oui.
Je ne sais pas. Oui, ça a dû
2017.
Sortir.
Ouais,
2017.
Ah, oui, donc les autres ont dû sortir déjà.
Très bien.
Très, très beau.
Merci, Pauline. Mmh. Allez, nous allons faire une pause avec un artiste du grand froid australien. Non, Valérie, ne me regarde pas comme ça, pas de Kylie Minogue ou de Nathalie Mbronglia. Oh. Nous allons écouter un musicien indigène australien qui chante dans la langue des Yolngu du doux nom de Geoffroy Gurumul Yunupingu pour la chanson Barou.
le han llamil care
Voilà donc, bon, je vous avouerai que mes acolytes n'ont pas forcément aimé la chanson que j'ai proposée. Elles ne s'attendaient pas forcément à
on
ça.
On s'attendait à un truc tradit avec du didgeridoo et tout
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Et non,
mais
un
pourquoi
peu.
Pourquoi pas.
Et non, c'est contemporain.
Qui nous surprend. En
et
fait.
Ouais, je
c'est
sais.
Ça qui est beau. David Charvet de l'Australie. En fait.
C'est ça. Claire.
Oui.
Le grand froid.
Oui.
Le grand froid.
Eh ben, il y aura quand même un petit lien.
Alors, Juliette Schlunk, pourquoi partir le rêve australien ? Peintre, céramiste, écrivain, elle habite dans le sud du Luberon. Vous pouvez d'ailleurs aller la rencontrer en visitant son atelier de céramique inspiré par la nature. Elle fait des figues, des grenades, des têtes d'ail, ainsi que des peintures basées sur les arbres, des bois, les vergers, les potagers provençaux. Elle a édité aux éditions Parole son premier livre, Rosenthal, une enfance australienne, en 2008. Et là, Diriade en 2013. Mais là, nous allons parler de ce livre, Pourquoi partir le rêve australien ?
Oui. Alors, c'est un petit livre édité chez Parole et c'est collection Main de Femme. Donc déjà, c'était quelque chose qui m'avait un peu intéressée, piqué de curiosité, je dirais. Et puis aussi, moi qui ai vécu un peu à l'étranger, j'aimais bien la question, quoi. Pourquoi partir, finalement ? Et alors là, en plus, sur la pochette, on voit donc l'île, l'énorme l'île australienne. Et puis, une diligence, quoi, façon 19e siècle. Et en fait, cette femme retrace l'histoire de sa propre famille, puisque Schlunke, c'est allemand. Et elle raconte quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais ces Allemands du 19e siècle qui sont partis émigrer et coloniser l'Australie.
Dans les années 1836, une grande vague.
Ouais. Donc ça commence avec son arrière-grand-père. Et puis je pense que l'histoire s'est bien transmise chez eux parce qu'elle connaît assez bien le truc. Et donc puis son grand-père, son père. Elle-même est née en Australie. Et voilà. Donc c'est un petit livre. Hein. Elle ne s'étend pas vraiment. Voilà, ça fait 122 pages et elle couvre 4 générations. Donc,
ah oui.
Voilà, c'est rapide et c'est inégal. Hein. Les premiers colons, l'histoire avance très très vite en quelque quelque sorte. Et puis, il y a une espèce de ralentissement parfois où je pense qu'elle a davantage de sources sur cette histoire et donc elle développe un peu. Donc, un des points intéressants, c'est... il y en a plusieurs. Déjà, ces colons existent toujours. Ce sont des communautés très fermées, en fait. Ils arrivent là-bas et ils ont à la fois le souhait de s'intégrer, de devenir australiens, de participer à l'économie du pays en devenant tous fermiers. Et à la fois, ils veulent maintenir leur tradition allemande, et garder la religion surtout, ça c'est le pilier central de la vie, et religion qui impose de faire le rite en allemand. Donc, ce qui fait aussi que la communauté est restée très soudée, et que, à mon avis, l'histoire s'est transmise, c'est qu'il y a... ils sont pas noyés quelque part dans le reste de la population, mais ils gardent vraiment ce noyau dur de qu'est-ce que c'est qu'être allemand en pays australien. Et puis, donc, il y a un passage tout à fait intéressant, c'est en 1914. Les Australiens ont été alliés aux Alliés, faisaient partie des Alliés. Et il y a un moment où... un moment un peu difficile à passer pour cette communauté qui, du coup, va être taxée un peu de... par leurs origines, de sympathiser avec l'ennemi, alors que tout le reste du pays va à la guerre. Et en plus, au sein même de cette communauté, il y a encore une scission, c'est-à-dire que les jeunes qui sont nés en Australie se sont d'abord australiens, plutôt qu'allemands, donc ils n'ont pas de problème à partir à la guerre et à combattre les Allemands, alors que les plus vieux, qui parfois ont vécu en Allemagne, ou en tout cas ont eu des parents qui eux-mêmes ont vécu dans ce pays, ont un conflit de loyauté et ont du mal à combattre leurs propres parents. Donc là, il y avait vraiment un morceau d'histoire très très intéressant à traiter. Donc c'est là-dessus qu'elle s'étale un petit peu plus. Je pense que ça aurait mérité un roman, quoi. Il y a carrément un vrai roman sur cette partie de l'histoire.
Temps. Il y avait une figue à faire.
Ouais, voilà. Il y avait un truc à faire. Ouais. Ouais. Moi, c'est vraiment le passage qui m'a intéressée. En plus, je connaissais pas du tout cette histoire. Je suis jamais allée en Australie, donc voilà. Alors de nos jours, elle raconte que ces communautés sont devenues des nœuds touristiques. Quand D'accord. on va en Australie, apparemment, dans ces coins-là, en Nouvelle-Galles du Sud et je sais plus quel autre coin. On visite ces villages allemands puisque quand ils arrivaient, ils construisaient à l'allemande.
À l'allemande, ouais. Donc c'est complètement improbable dans le paysage.
Ouais, voilà. Mais c'est un peu galvaudé, évidemment, version 21e siècle. Donc vous avez des allées marchandes, un peu décor carton-pâte. Vous mangez de la saucisse et vous buvez de la bière sous 45 degrés. Tu l'as dit, Ludo, elle revient. La boucle est bouclée. Bon, elle ne retourne pas en Allemagne, mais elle vient en France. Elle revient en France parce qu'il y a un moment, la vie australienne ne lui convient plus tellement. Donc c'est assez très, très court. Franchement, ça se lit en 2 heures un dimanche après-midi. Mais c'est un sujet qui est original, je trouve, et c'est intéressant à savoir, quoi. Ça aurait mérité, je pense, un plus grand roman.
Oui, sur certains passages.
Voilà,
ouais.
D'accord.
Voilà. Ouais. Et je le conseille pour les gens qui ont envie de lire, mais qui ont peur de se lancer dans des grands textes, qui ne sont pas forcément des grands lecteurs. Parce que là, c'est court et l'histoire est pas compliquée, ça se lit bien.
Ouais. Oui, puis en plus, comme tu dis, ça saute des générations. Enfin, tu passes d'une génération à l'autre.
Oui, c'est ça, c'est linéaire. Ça... Ouais. Ouais.
Merci Claire. Voilà. Valérie. Valentina Vecchio Vecchett, je ne sais pas comment ça se dit, Vecchett. Ouais. Pour Peau de Phoque, Valentina Vecchett est une auteure tchouktche, un peuple habitant les rives du détroit de Bering. Elle est née en 1934 à Ouvelen, sur le détroit de Bering, là où se rencontrent l'océan glacial arctique et le Pacifique. S'inspirant des contes et légendes de son peuple, elle rend dans ses œuvres un hommage poétique à la lutte de la communauté tchoukche pour préserver la culture de ses ancêtres. Peau de Phoque est le premier roman traduit directement du tchoukche au français. Le premier roman de l'histoire.
Qui a traduit ça, du coup ?
Elle-même, je crois, non ?
Ah, ok.
Je ne sais pas.
Traduit... Non, c'est Charles Weinstein.
Okay. Eh oui, ce bon vieux Charles qui s'ennuyait un dimanche après-midi et au lieu de lire pourquoi partir, il s'est dit je vais traduire mon ami Vecchett.
Je vais d'abord apprendre la langue.
Je vais d'abord apprendre la langue. après accorder des instruments inconnus. Ouais. Et après, je vais peut-être. Ouais. Peau de phoque, c'est le surnom dont sont affublés les plus miséreux de la Tchoukotka, là où la température avoisine les moins 30 degrés. Est-ce que tu as eu froid, Valérie, en lisant ce livre ?
Je me suis gelée, j'ai rajouté une couette à mon lit, j'ai pris un plaid. Puis j'ai été fermer les fenêtres de ma chambre. Déjà, ça a bien aidé. Non, c'est exactement ça. Alors là, on est plus que dans le thème. On est vraiment... on est dans la glace. On est dans le froid. Il y a le vent qui passe, la neige qui rentre par tes chaussettes. C'est glacial. C'est magnifique. En plus, il y a une histoire... je pense qu'il y a du vrai dans ça, puisque comme Ludovic le disait justement en introduction, les pots de phoque, c'est vraiment le... Ce surnom qui est donné donc aux familles les plus pauvres. Et là, on est donc sur la famille donc de Tiyen, qui a trois enfants. Et ces trois enfants-là, en fait, son mari était un habile chasseur. Il était censé pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Mais il s'avère qu'il a eu des soucis de santé et il ne peut plus aller chasser convenablement. Donc, en fait, il part à l'hiver. Et il fait des milliers de kilomètres avec ses chiens qu'il a du mal à nourrir pour aller quémander, en fait, pour aller quémander un bout de phoque, un peu de viande, un peu de... Et pendant ce temps-là, c'est la mère qui élève seule ses trois garçons. Une mère qui est à la fois très dure et très aimante parce qu'elle est, elle les endurcit, j'allais dire, pour qu'ils puissent survivre. Sachant qu'ils sont tellement démunis dans leur tienne, là c'est leur tente, dans l'intérieur de laquelle il y a encore une autre tente. Elle chauffe cette maison, mais elle a même pas assez de peau pour leur fabriquer des vêtements. Donc ils vivent nus à l'intérieur de cette tente. Et elle leur donne une pierre.
Mais ils chauffent comment ?
Avec un peu de graisse de phoque qui leur reste, puisque quand ils arrivent à avoir un phoque, ils économisent, mais ils mangent jusque... Enfin, t'as l'impression qu'ils se nourrissent même des os des animaux. Ils peuvent pas réparer la tente, donc à chaque tempête, elle leur raconte comment elle passe ses nuits, ses jours, parce qu'il n'y a plus de notion de jour de nuit aussi. On est au détroit de Bering, donc... Oui. Elle a enlevé cette neige qui rentre, qui s'insinue partout, on les sent gelés, on les sent glacés, et elle a juste sa combinaison de femme, en fait, qu'elle prête à tour de rôle à chacun des enfants, quand ils sont assez grands. Donc le tout petit s'est habillé pour la première fois déjà grand. Donc ça fait beaucoup rire leurs voisins qui sont un peu plus loin. Et eux, ils ont appris, en fait, les enfants, sans se conditionner, mais naturellement, à ne pas tenir compte de ces remarques, voilà, à pouvoir encaisser tout ça sans que ce soit dur, sans que la médisance les touche, en fait, ils le prennent, ils acceptent parce que la vie est comme ça, et la mère leur a inculqué ce côté de ne pas désirer ce que les autres ont, mais juste que c'est comme ça, voilà. Et donc on sent qu'ils souffrent du froid, de la faim, ils ont rien. Mais c'est pas grave, la vie est faite comme ça, et quand les enfants vont grandir un peu, ils seront prêts, en fait, ils seront prêts, c'est vraiment un conte initiatique, c'est assez incroyable, ils seront prêts là où ceux qui ont les moyens n'étaient pas prêts. Il y a une espèce d'envahisseur qui arrive, un voisin qui vient du sud, mais qui est déjà pour nous le Grand Nord, qui vient, qui les met à l'épreuve, qui chasse les femmes, qui prend les jeunes filles. Et en fait, c'est ces enfants-là qui, eux, ne vont pas fuir quand l'envahisseur va arriver, et qui vont combattre, mais sans... c'est difficile à dire, sans violence, parce qu'ils sont pris pour des idiots, parce que quand l'envahisseur arrive, il a de l'argent, il saccage tout, et eux, ils n'ont rien, en fait, ils sont à moitié nus, et ils vont pouvoir... les combats se font sous forme d'épreuves sportives. Et chaque fois, ils vont être les meilleurs parce que malgré leur pauvreté, ils ont... la mère les faisait toujours travailler, en fait. Elle disait, jouez au ballon. Et le ballon, c'était une pierre. Et plus ils grandissaient, plus elle leur donnait des pierres lourdes à jouer, en fait. Et ils jouaient donc à la balle, qui était une pierre, et on les imaginait dans la tente pour se réchauffer, jouer avec ces grosses pierres. Donc en fait, ils devenaient forts, ils devenaient musclés. Elle les faisait sauter par-dessus la tente, par-dessus les feux, pour qu'ils apprennent à sauter le plus haut possible, à courir le plus vite possible, voir au lac, pour voir s'il n'y avait pas un poisson, quelque chose dans le filet. Et en fait, ils avaient, comme ça, dans la vie de tous les jours, développé des compétences physiques et mentales assez exceptionnelles. Donc finalement, de par, entre guillemets, cet exploit-là, ils vont avoir le respect de tous les voisins qui avaient des biens, qui avaient pas forcément de l'argent, parce qu'on ne sent pas non plus une opulence folle. Hein, on est quand même vraiment dans des territoires très, très isolés. Et du coup, ils vont réussir à se réinsérer comme ça, mais tout en restant peau de phoque. Mmh. Et on sent que c'est pas quelque chose qui leur pèse, c'est leur condition. Mmh. Tout à l'heure, je parlais des tziganes, ben là, c'est peau de phoque. Mmh. C'est comme ça, c'est leur vie. Il y a un petit fond de magie, un peu, là, quand tu parlais des petits êtres de l'hiver. Chaque fois, ils se posent quand même la question, à savoir, est-ce qu'ils ont fait une offrande suffisante? Est-ce qu'ils ont prié correctement pour ne pas avoir eu, justement, pour avoir pu attraper un renne, ou, enfin, voilà, il y a un petit peu,
oui, moi, j'aurais aimé
la voir plus, mais c'est un livre qui est court et qui est plus là pour raconter que vraiment faire rêver. Enfin, c'est pas un roman pour rêver, c'est un roman pour apprendre, pour découvrir un autre peuple, vraiment un peuple, je pense qu'on peut pas avoir plus extrême dans, comme condition de vie. C'est à la fois dur, parce que la maman, on a l'impression qu'elle est très, 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 très dure avec ses enfants, mais en fait, c'est de l'amour, mais de l'amour que peut-être nous, on peut, en tant qu'occidentaux des pays chauds, on peut pas, je pense qu'on peut pas comprendre. Parce qu'on a du chauffage.
Oui,
on ne
conçoit pas du tout le,
oui, voilà,
le rôle de maman dans cette optique-là.
Ouais. C'est un peu déroutant, en fait, ce que tu racontes. Parce que c'est basé à partir... Enfin, je veux dire, ils existent vraiment, cette civilisation des pots de phoque.
Oui,
c'est pas un récit utopique.
Non, c'est vraiment... Ça existe vraiment. L'histoire en elle-même, j'ose espérer qu'elle n'est pas vraie. Mmh. Notamment par rapport à cet envahisseur qui arrive... Je sais pas d'où, mais on suppose du Nord-Russie, parce qu'ils parlent pas la même langue, mais ça existe vraiment. Et d'accord. La pochette du livre que j'ai, c'est un joli dessin, mais sur celle que je vous avais envoyée sur le groupe de discussion, c'est vraiment des habitants de Tchouki, je sais même plus comment on le dit, du pays de Tchoukotka, voilà. Mais c'est vraiment un peuple qui existe, ouais. Okay. Ouais, et qui quand ils racontent comment ils vivent, comment ils transforment parce qu'ils mangent que de la viande, en fait, hein, parce qu'il y a jamais de quand tu parlais, Pauline, tout à l'heure, que le printemps s'annonçait par de la neige, eux c'est pareil, en fait, il y a pas de fleurs, il y a pas de c'est blanc, en fait, tout le roman est blanc, et c'est très difficile de s'imaginer le temps qui passe, puisque c'est des années là qui s'écoulent dans ce livre sans couleur.
Sans saison.
Ouais, la seule couleur, c'est la couleur du daim, du renne, des chiens de traîneau, et c'est assez déroutant, en fait. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il y a des saisons, parce que le mot saison existe, mais elles sont pas marquées.
Oui, comme elle pourrait l'être chez nous.
Voilà, c'est ça. Oui. C'est, on peut percer la glace au printemps. C'est pas c'est vraiment déroutant, et c'est, d'un côté, ça donne presque envie d'aller voir, mais il faut pas, parce que c'est très mauvais. Mais c'est glacial, vraiment glacial, et plein d'amour, quoi.
Elle s'inspire de contes et légendes de son peuple, hein, elle le dit elle-même. Ah, donc, oui. Ce n'est pas biographique, mais bon, ça s'inspire de contes et légendes. Mm-hmm. Voici la photo de cette belle jeune femme.
T'inquiète. Ouais, vraiment un joli roman, ouais. Voilà.
Ok, mais merci, ça donne envie, ça se finit bien, au moins. Ou tu peux pas le dire.
Si. Enfin, si. C'est une tranche de.
Parce que raconté.
Non,
c'est pas très jovial.
C'est rude.
C'est un peu rude,
ouais,
oui.
C'est ça, c'est rude. Mm-hmm. Ouais, mais ils se battent. Ils sont pas miséreux dans leur vie, finalement.
Mais c'est ça, en fait. Ils ont pas. C'est
rude de notre point de vue à nous.
Ouais. Ils l'acceptent. Ils sont stoïques, et puis.
Personne. Ils ont de belles valeurs. Enfin, c'est.
Personne ne nous a lu de passage de ces livres, d'ailleurs. Je tiens à remarquer.
Moi, c'est des petites phrases.
Pauline n'a pas envie. Pauline, tu as le droit de refuser.
J'en ai pas préparé. C'est chouette quand c'est préparé.
Moi, j'en ai. De toute façon, tu nous l'as assez bien vendu. Tu en as un, tu dis.
Ouais, par rapport à la. C'est la mère qui s'adresse à ses enfants, en fait, par rapport justement aux pierres avec lesquelles ils jouent. C'est « Vous avez connu des privations, mais la vie passe et change. Les épreuves qu'on traverse sont précieuses pour qui veut vivre sans connaître le besoin. La pierre est lourde pour celui qui se refuse à la manipuler et qui la contourne quand elle est à terre. Si elle gêne, enlevez-la de votre chemin. Ne comptez pas sur les mal intentionnés pour vous tirer d'un mauvais pas. Ne leur prêtez pas attention et ne les craignez pas. Si quelqu'un s'immisce dans vos pensées, remettez l'offenseur à sa place. La colère est quelque chose de fort, elle corrompt beaucoup de gens. Vous, si vous devez éprouver de la colère, efforcez-vous de la changer en nourriture, en vêtements, en habitation, en chaleur. À votre façon de la maîtriser, on jugera de votre capacité à lutter pour votre vie. Vous voilà devenu presque adulte. Vous avez grandi, revêtu de ma combinaison de femme, mais vous oublierez peut-être que vous avez grelotté de froid couché sur vos peaux de phoque.
Ouais, très beau.
Mais c'est ah ouais. ça tout le temps, c'est toujours cette...
Des leçons de vie aussi.
Ouais, mais c'est marrant parce qu'on ne ressent pas ces morales parce que c'est inculqué, je ne sais pas. C'est vraiment la vie qui est comme ça, c'est pas rajouté. Ah, c'est comme ça, voilà. C'est, la vie est faite ainsi et elle le décrit. Et je pense que sur la traduction, ça y fait beaucoup parce qu'il y a des fois, c'est... C'est pas par rapport à l'autre livre de Mascaro où je parlais de l'écriture qui était belle. Là, c'est pas l'écriture qui est belle, c'est l'histoire qui est magnifique. L'écriture, elle est pas. Ouais. C'est pas foufou, quoi. Voilà.
Après, ça doit pas être simple de traduire aussi. Hein.
Je pense ça.
certaines subtilités que peut-être on perçoit pas en langue française.
C'est possible. Hein.
Claire, le grand froid, où va-t-on aller cette fois-ci? Tiens, en Californie, là où c'est bien connu, il fait très froid toute l'année.
Il paraît qu'un jour, il a fait 8 degrés.
Ouais, il paraît. L'oiseau canadèche de Jim Dodge. Yes. Jim Dodge qui est né en 1945 à Santa Rosa en Californie, qui a vécu pendant 6 ans jusqu'à ce que son père, en Californie jusqu'à 6 ans, jusqu'à ce que son père charpentier et ancien pilote de bombardier durant la Seconde Guerre mondiale soit rappelé sous les drapeaux en qualité d'instructeur de vol. Donc Jim a eu droit à cette jeunesse itinérante hors du commun, propre aux enfants de militaires qu'il a conduit au Texas, dans le Wyoming, en Californie du Sud, et au Labrador, comme l'animal. C'est assez drôle. Bref, il a écrit en 1983 « L'oiseau canadèche », une œuvre de fiction en prose. Et grâce à ce livre, il est en mesure de subvenir à ses besoins en combinant l'écriture et l'enseignement à temps partiel. Sont ensuite publiés en 1987 « No Fade Away » et « Stone Junction » en 1990, dont l'écriture aura pris une dizaine d'années.
Oui, alors un petit mot d'abord sur l'éditeur, pardon, parce qu'effectivement, ce livre, depuis qu'il est paru, dans le monde entier, il est constamment réédité. Hein, en France, on a déjà connu au moins 3, 4, 5, je ne sais pas combien d'éditions. Et alors ici, là, c'est Tichina. Donc Tichina, on le connaît peu,
pas,
oui, mais c'est très précieux. Ils nous ont fait 4 livres, dont FUP, l'oiseau canadèche. Récemment, enfin il y a 2 ans, ils nous ont fait aussi Les raisins de la colère, illustrés par d'autres mères. Mm-hmm. Ce sont des œuvres d'art. Franchement, allez jeter un coup d'œil sur le site internet de Tichina. Donc c'est leur credo, hein. On publie des livres, des très beaux textes, mm-hmm. et on en fait de très beaux objets. Ah. Là, vous le voyez déjà, le livre, il est cousu, oui. hein, ce qui se fait de moins en moins, ils sont très souvent collés. La couverture, mm-hmm. elle est en toilé, mm-hmm. en tissu, il y a des pages mm-hmm. de garde qui font mm-hmm. référence à...
Donc Ludovic est en train de caresser, voilà,
de caresser le livre.
En décrire un
peu. Je le présente.
Non, voilà, tu le caresses. Pose ce livre.
Les pages du garde ont du sens. Et quand vous voyez la jaquette, vous pouvez la déplier. Ça fait un poster.
Ah. Il voilà. y a des illustrations, je n'ai pas dit, de Tom Ogomat.
Oui.
Sacrées illustrations.
Voilà. Ça, et alors, le papier est super. Il est épais, c'est extra. On dirait du petit canson. Et effectivement, les illustrations, c'est l'atout de cette édition, sont absolument magnifiques. Et vraiment, parsèment le livre. Je veux dire, il n'y a pas trois illustrations au début. Non, non, ça fait partie de l'histoire. Vous vous arrêtez pendant votre lecture pour regarder ces illustrations qui sont, moi, je trouve super. Ah, très, très colorées, ouais. Un style très particulier. Et alors, l'histoire l'est tout autant. Donc, c'est l'histoire d'un grand-père qui est très original dans son genre, qui récupère un enfant parce que sa mère a eu un accident de voiture. Enfin, non, pas de voiture, un accident de ponton. D'accord. Enfin, en allant, en voulant aller nourrir un canard sur un ponton, elle glisse, et elle tombe, elle se noie. Voilà, le truc. Voilà. Cool. C'est écrit en une phrase au début. Donc, le gamin se retrouve orphelin et est récupéré par ce grand-père-là qui... c'est pas Papy Gâteau. Hein. Mm-hmm. Il a un côté rock'n'roll, le grand-père. Et alors, il a des phrases absolument délicieuses. Par exemple, il dit... Le diable distribuerait des cornets de fraises en enfer que je n'aurais toujours pas payé mes impôts. Voilà. Il a ce genre de sortie comme ça. Mm-hmm. Où il distille aussi son whisky qu'il a appelé le râle d'agonie. Oh. C'est le nom du whisky. Enfin, voilà. Donc là, rien que pour l'univers du grand-père, il faut lire ce livre parce que c'est vraiment particulier. Et puis on est loin de l'image très stéréotypé, des grands-pères qui s'occupent des petits-enfants, on n'est pas du tout là-dedans. Et un jour, puisque c'est ça le titre, FUP, l'oiseau canadèche. Alors FUP, je ne sais pas pourquoi, puisque je l'ai volontairement ralenti, le livre, parce qu'il est super et je le lisais trop vite. Donc mm-hmm. là, j'ai lu les deux tiers, les trois quarts. Donc FUP, je ne sais pas pourquoi, mais l'oiseau canadèche, oui. Le fils, quand il grandit, bon, il est un peu spécial. Sa passion, c'est les clôtures. Il adore faire des clôtures. Il fait des clôtures partout, tout le temps. C'est un peu bizarre.
Oui, une drôle de passion.
Oui. Et puis, en faisant un trou pour planter un piquet, il tombe sur un œuf. Et là, ben voilà, ça l'intéresse. Alors, il récupère l'œuf. L'œuf devient une canne. Alors, pourquoi canadèche ? Parce que le grand-père qui a toujours... Enfin, qui parle avec de l'argot, quoi. Hein, mm-hmm. C'est assez bien traduit. Et il lui dit, ben, ta canne, elle était dans la dèche. C'est la canne à la dèche, c'est la canne à dèche. Okay. Voilà. Donc, c'est comme ça voilà, que ça s'explique. Et donc, j'imagine qu'il y a une histoire qui va naître à partir... avec l'oiseau. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu.
Mince.
Mais vraiment, voilà, c'est déroutant.
Ben oui.
Mais c'est drôle. Vous voyez, vraiment, si vous voulez, déjà tout le sel de l'histoire, c'est dans la façon dont les événements sont. Déjà, les événements sont complètement incongrus, la plupart. Et puis la langue, en fait, c'est la langue de l'auteur et le caractère des personnages. Voilà, c'est drôle. C'est drôle. Alors, faut aimer un peu l'humour noir, faut aimer rire jaune, faut aimer, vous voyez, c'est pas forcément un truc facile et qu'on va vendre à tout le monde. Mais voilà, enfin, c'est drôle, c'est bien.
Et oui, tu dis que t'as ralenti ta lecture, je vois derrière. Le seul défaut de ce livre, c'est d'être trop court.
Ouais. Je trouve que ça se lit très vite. C'est vraiment, on est dedans, on s'amuse.
Alors,
bien,
il faudra que tu commences tes lectures plus tôt pour ralentir ta lecture, mais que tu l'aies quand même fini quand tu le présentes. Oui. Parce que là, on reste un peu sur notre fin.
Ouais.
Il a adopté par la suite le fils de sa sœur décédée, donc son neveu dans sa vie. Donc, ça a peut-être un lien avec ça.
En partie autobiographique.
En partie autobiographique.
Génial.
Super, c'est une belle fin sur ce thème, le grand froid.
Mais toi, tu ne racontes rien, Ludovic ?
Je n'ai rien lu.
C'est pas possible.
Et si, je ne trouve pas le temps.
Tu peux lire un rapport énergétique d'isolation d'un bâtiment.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
Comment ça ? Tu ne peux pas porter un nourrisson, donner un biberon et lire d'un autre bras ?
Je n'arrive plus à rien faire. Je suis fini.
Alors, on continuera à lire pour toi, Ludovic.
Non, mais vu le thème de la prochaine émission, je pense que je vais trouver le temps de lire. Hein.
Alors, dis-nous tout, c'est quoi ?
C'est clair.
Non, mais en fait, moi, je fournis les livres et vous fournissez le thème. D'accord. Ça, c'est mieux.
Non, bon, mais écoutez,
fournir un truc, alors.
Ça sera la surprise, alors on verra pour la prochaine émission. Super. C'est comme ça ?
Oui.
Allez, hop, on va préparer le jingle. On salue, bien sûr, Marlène et Claire-Lise qui nous écoutent et qu'on retrouvera... peut-être la prochaine fois.
À bientôt.
Au revoir. Bye bye. Bye.
Ciao, ciao.
Au revoir.
Et la lecture, c'est aussi une forme de résistance.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. Sinon pas style, ils ne m'intéressent pas.
Je me suis contenté de faire un petit rond, un cercle, une petite mèche pour donner un accent. Comme ça, j'étais certain que ce personnage, on le reconnaîtrait de dessin en dessin et de semaine en semaine.
Les histoires, il y en a plein à la rue, plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire.
Les livres nous transforment. Je suis ce que les livres m'ont fait, oui.
Faut jamais oublier qu'il y a un endroit de littérature où seul le style, seul les mots comptent, c'est la poésie.
On voit à travers l'écriture. Je ne sais pas ce que c'est un livre, personne ne le sait. Mais je sais quand il y en a un, quand il n'y en a pas un.